trois grâces déjà pour ceux qui nous ont précédés et qui ont travaillé sur ces questions qui sont un peu ardues, parce que ce n'est pas des questions si faciles, ce n'est pas de prime abord, simple de compréhension, comment, et en même temps très important. On va voir un peu les conséquences. Parce que c'est des conséquences qui. Comment le Fils de Dieu est-il homme ? Parce que l'union. Vous voyez le numéro 470. Parce que dans l'union mystérieuse de l'incarnation, la nature humaine a été assumée, non absorbée. L'Église a été amenée au cours des siècles à confesser la pleine réalité de l'âme humaine, avec ses opérations d'intelligence et de volonté, et du corps humain du Christ. Mais parallèlement, elle a eu à rappeler à chaque fois que la nature humaine du Christ appartient en propre à la personne divine du Fils de Dieu qui l'a assumée. Tout ce qu'il est fait, tout ce qu'il est et ce qu'il fait en elle relève de la Trinité. Le Fils de Dieu communique donc à son humanité son propre mode d'exister personnel dans la Trinité. Ainsi, dans son âme comme dans son corps, le Christ exprime humainement les mœurs divines de la Trinité. Alors, c'est un peu complexe, je le reconnais, c'est pas un sujet forcément si simple, le credo, mais en même temps, parfois, il faut s'y coltiner et puis travailler les choses. Ça veut dire que le Christ a assumé et non absorbé l'humanité. C'est important, ça. Nous, c'est la grande différence avec le bouddhisme. Dans le bouddhisme, on va vers le grand tout et on se fond dans le grand tout. Nous ne croyons pas ça. Nous croyons que au-delà, dans la vie éternelle, nous existerons comme personnes humaines avec notre âme et avec notre corps. On y reviendra vers la fin de la résurrection des corps. Nous croyons que toute la personne humaine sera comme assumée, ça vous avez vu évidemment, assomption, assumée par l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et ça, c'est la grosse différence, entre autres, avec beaucoup de philosophies ou de religions asiatiques. Parce qu'on parfois se dit, mais au fond, quelle différence ? On voit des gens qui se convertissent au bouddhisme. Mais c'est radicalement. La réincarnation n'est absolument pas la résurrection. Ça n'a rien à voir. Nous continuerons de subsister comme personnes humaines. D'abord avec notre âme et ensuite avec notre corps à la résurrection, à la fin des temps. Parce que si on imagine une plénitude, forcément on l'imagine avec notre corps. Et donc, je me rappelle ce dialogue, il y a un dialogue qui existe, un livre de dialogue entre le père Abbé de Solem et le grand Dalai Lama. Et au bout de X heures d'entretien, parce que c'est un journaliste qui a mené tout ça, etc., le père Abbé lui pose la question, mais est-ce que nous existons vraiment ? Et le Dalai Lama dit, je ne sais pas. Est-ce que ce monde n'est pas qu'une illusion ? Pour le bouddhiste, c'est une vraie question. Et même il y a des cultures où le verbe être n'existe pas. Alors c'est compliqué, quand vous êtes un dieu qui suis celui qui suis, arriver dans des cultures où le verbe être n'existe pas. Non, mais c'est aussi ça, c'est le fait qu'il a assumé, on n'est pas confondu avec Dieu. On est participant, mais on ne devient pas Dieu. C'est pas le bouddhisme, en grande partie, c'est un panthéisme. Le panthéisme, c'est que tout est Dieu. Tout est Dieu, c'est-à-dire l'arbre est Dieu, le machin, etc. C'est le panthéisme. Nous ne sommes pas d'une foi panthéiste. Nous croyons qu'il n'y a pas de fusion ni de confusion avec Dieu. On est assumé. Assumer, ça veut dire faire sien. Et on verra dans la Vierge Marie comment ça a des conséquences considérables. Que Jésus a fait sien la nature humaine, a assumé. C'est-à-dire que tout ce qui est de la nature humaine, d'une manière ou d'une autre, concerne Dieu. Il n'y a que nous qui croyons ça. Vous pouvez y aller. Il n'y a aucune autre religion qui croient que tout ce qui concerne la nature humaine a à voir avec Dieu. Et non plus, il n'y en a aucune qui croit que tout ce qui concerne Dieu a à voir avec la nature humaine. C'est-à-dire que, et ça je trouve c'est important, cette unité, même si c'est un peu ardu, mais l'union de l'humanité, de la divinité, fait que tout ce qu'a vécu le Christ est rencontre avec Dieu. La vie de travail, la vie de famille, la vie de prière, évidemment, tout ce qui est humain peut devenir rencontre avec Dieu. Mais ça, parce que le Verbe s'est fait chair, c'est tout. Ceux qui ne croient pas au Verbe fait chair ne croient pas que tout ce qui est humain peut être rencontre avec Dieu. Et même ils disent que c'est parfois blasphème. Et on peut les comprendre. Hein, et c'est pour ça que dans l'Église, juste pour terminer, tout ce qui est humain est rencontré avec Dieu, jusque dans la souffrance. Hein, car il me faut un Dieu qui prenne ma nature, qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. C'est la petite Thérèse de l'enfant Jésus. On reconnaît. Même dans ça, le Christ a assumé c'est la mise en contact avec Dieu. Et parce qu'il y a un contact avec Dieu, ça devient aussi un lieu de rédemption et il y a une espérance qui s'ouvre. On n'est pas laissé à nos humanités plus ou moins réussies. Nos pattes humaines, le père Raphaël l'a très bien dit dans l'homélie, nos pattes humaines, voilà, sont... S'il n'y a pas une espérance, et que cette espérance vient justement du fait que le Christ a, Verbe de Dieu, a pris notre humanité, hein, sans confusion, avec elle, n'a pas absorbé, mais l'a assumé, l'a fait, a fait sien l'humanité du Christ, notre humanité. Si on en, pourquoi est-ce qu'on peut appeler Dieu ami? Vous savez que Aristote, quand il parle de l'amitié, un des critères de l'amitié, c'est l'égalité entre les amis. Il dit, ce qui n'est pas faux du reste, Aristote, donc 4e siècle avant Jésus-Christ, l'égalité entre les amis, pour être ami, il faut avoir une certaine égalité et du coup une certaine, on peut pas, le père n'est pas ami de son fils, le maître n'est pas ami du disciple, etc., etc. Et on ne peut pas être ami avec Dieu parce que il n'y a pas d'égalité, il faut des choses communes. Et on voit bien quels sont vos amis. C'est difficile d'être ami de quelqu'un qui a 20 ans de moins que soi. C'est difficile, parce qu'on n'a pas forcément des choses communes, des souvenirs, des références, etc. Ça, c'est pas que... Et on voit, c'est que, comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. C'est un peu la. Bon. Et il disait, il ne peut pas y avoir d'amitié avec Dieu, parce que précisément, il y a une telle différence entre Dieu et nous, la divinité telle qu'il l'a concevée, que forcément, on ne peut pas appeler Dieu ami. Or, Jésus nous dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Qu'est-ce qu'il y a maintenant de commun entre Dieu et nous? Question. Notre humanité, l'humanité du Christ. C'est ça qui est en commun. Et parce qu'il y a ça en commun, on peut l'appeler Dieu ami. Mais nous sommes la seule religion. C'est pas pour dire, mais c'est important de dire ce qui est aussi notre spécifique. À l'heure où il y a des rencontres de religion, etc., et qu'on semble que tout est sous un même pied d'égalité, non. Nous avons une communication, et non seulement un appel du ami, mais le père Raphaël l'a rappelé dans son lit avec la citation de saint Augustin, Dieu est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Et ça, c'est seulement le chrétien qui croit que en rentrant lui-même, en travaillant, en rentrant dans une dimension intérieure, il y a la rencontre avec le Seigneur qui a pris notre humanité. Ce qui fait que tout ce qui est de la nature humaine, parce que ce qui était de la nature humaine, à l'exception du péché, qui nous éloigne de notre humanité d'une certaine manière, tout ce qui a pris de la nature humaine, eh bien, et devient rencontre avec Dieu. Et ça veut dire aussi que dans l'Église, très tôt, il y a eu cette conscience de dire, vous avez peut-être entendu l'expression, humaniser pour diviniser. humaniser pour diviniser, à travers l'éducation, à travers la santé, à travers le soin des plus fragiles, etc. Ce souci qu'a eu l'Église dès les premiers temps, de pouvoir élever la nature humaine, prendre soin de la nature humaine, parce qu'à travers ce prendre soin de la nature humaine, il y a une rencontre avec Dieu qui est possible. Et c'est tout le grand rôle d'éducation, hein, c'est la grande force et singulièrement de l'Église catholique, hein, c'est l'enseignement, c'est la formation. Et on est dans un lieu de formation et c'est bien de rendre hommage aussi à tous ces pères salésiens qui ont une pédagogie extraordinaire. Et ça, c'est la grande force, c'est qu'on forme les personnes. Et pourquoi est-ce qu'on... Et les écoles sont nées à l'ombre des cathédrales. On le sait très bien, ça. Donc, parce que humaniser pour diviniser, il faut, à mesure que la nature humaine, que notre nature humaine grandit, à mesure aussi, notre capacité d'accueillir Dieu grandit. Et on voit bien des natures humaines très blessées, très... pauvres, etc. C'est pas facile de faire grandir la vie de Dieu. C'est pas facile, c'est pas que c'est impossible, c'est plus compliqué, c'est plus difficile que quand une personne a grandi dans un certain équilibre. Et du coup, s'ouvrira plus volontiers à la grâce, s'ouvrira. Et alors que la nature humaine, plus pauvre, plus voilà, et ben il faudra la travailler comme une pâte un peu davantage. Humaniser pour diviniser, ça je pense que c'est vraiment que, et ça a été le souci justement aussi de l'Église de rentrer dans les différentes cultures. C'est pas facile, la question de l'inculturation aussi, parce que nous on est dans une culture, voilà, parce que l'Église a été source de culture, a été créatrice de culture. Toute cette culture dont nous héritons, c'est le christianisme qu'il a permis à travers les siècles. Mais quand l'Église est arrivée dans d'autres cultures, parce qu'il y a cette dimension de dire ce que nous vivons comme ça concerne l'homme et tous les hommes, mais d'une certaine manière, pourquoi ne pas en faire bénéficier d'autres ? Et ça a été tout le rôle de l'évangélisation, etc., etc., bon, avec plus ou moins de bonheur, mais il y a des cultures où il y a eu de grandes difficultés pour arriver, par exemple la Thaïlande. La Thaïlande, parlais avec des pères des missions étrangères, Dieu sait s'il y a eu des martyrs en Thaïlande, etc. Mais il y a des cultures qui... C'est compliqué de encore pour la question du verbe être, par exemple, mais de prendre conscience que la nature humaine a une telle dignité. Vous voyez, en Inde, par exemple. En Inde, on brûle les corps. Bon, très bien. Mais du coup, vous pouvez très bien... Il y a une fille qui, comme ça, qui avait fait un séjour humanitaire en Inde, ça, elle m'avait parlé, elle m'a dit... Dans la rue, vous pouvez passer à côté de corps, mais à moitié brûlé. On dit, bon, c'est quoi ce truc-là, etc. Du coup, vous croisez un pied tout seul, une main toute seule, etc. Bon, c'est un petit peu spécial, mais parce que pour eux, la dimension du corps n'est pas du tout la même. Elle dit, ben, j'ai pris conscience de l'héritage chrétien et de la dignité du corps. À travers ça, j'ai pris conscience que... mais ça... Ça ne vient pas tout seul. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment intéressant de dire ça, c'est de rappeler que chaque fois que la nature humaine du Christ appartient en propre à la divinité de Dieu qu'il a assumée. Voilà, c'est ça, c'est tout ce qui est humain. Et le Christ a vécu aussi une humanité. Alors, est-ce que le Christ a appris ? Alors, c'est la question de l'âme. Est-ce que le Christ a appris ? Parce qu'il y a certains, il y a des évangiles qu'on appelle apocryphes, qui étaient très dans un mode, j'allais dire, merveilleux, du style bébé, le Christ a façonné avec de l'argile une colombe, il lui a soufflé dessus, et la colombe a fait flap-flap, etc. Bébé, quand le Christ passait, les palmiers, ça s'inclinait, etc. Du coup, ça n'a pas été retenu comme évangile avéré, parce qu'on a dit, non, ça ne respecte pas l'humanité. Il y a eu une croissance dans la connaissance. Le Christ a appris à lire, le Christ a appris à parler, le Christ, etc. C'est juste après, il y a eu une connaissance à mesure que lui-même, comme tout homme, voilà, il a grandi dans la connaissance. Il a grandi comme adolescent, etc. etc. Donc, je trouve ça intéressant de dire que ça nous ouvre une grande espérance et une grande confiance, au fond, dans la nature humaine, qui est bien blessée, on le voit bien, bien, bien fragile, bien nos pattes humaines, nos pattes humaines familiales, voire conjugales, etc., sont dans un côté lourd et épais. Et donc, de dire qu'il y a une espérance, au fond. Nous ne sommes pas livrés à nos psychologies blessées. Il y en a un qui nous montre le chemin d'une humanité parfaite, d'une humanité réconciliée. Et voilà. Et c'est pour ça que, en regardant le Christ, qui manifeste le Père, je vois ce que c'est que devenir personne humaine. Et en Marie, évidemment, ça s'est accompli de façon parfaite. D'où l'imitation du Christ. L'imitation du Christ, comment le Christ agit, comment le Christ... Du coup, je reprends les évangiles. Voilà, j'ai les mœurs de Dieu à travers le Christ. Et aussi, je me rappelle, à travers le Christ, ce qu'est une personne humaine. Le Fils de Dieu a travaillé avec des mains d'homme. Il a pensé avec une intelligence d'homme. Il a agi avec une volonté d'homme. Il a aimé avec un cœur d'homme, né de la Vierge Marie. Il est vraiment devenu l'un de nous, tout semblable à nous, hormis le péché. Voilà, ça résume. Il est vraiment l'un de nous. Et en même temps, tout autre. Voilà, donc ça c'est... Ça, c'est important, ces questions-là, à la fois d'humaniser, diviniser, de voir que tout dans notre vie a à voir avec la vie de Dieu. Il n'y a rien qui soit étranger à Dieu dans nos humanités, à l'exception du péché, c'est-à-dire ce qui nous rend moins humains. Donc on voit comment le christianisme a donné une dignité, mais suréminente, à la personne humaine. On comprend pourquoi. Et alors que l'Église a été artisane de culture, etc., aujourd'hui, elle est plutôt, en tout cas dans les pays occidentaux, un peu en contre-culture, pour ce qui est de la défense de la vie, pour ce qui est de la... du mariage d'un homme et d'une femme, pour ce qui est de l'accueil de... Elle est un peu en opposition avec une société occidentale qui lui doit beaucoup, qui a oublié d'où elle vient, et du coup qui part en live sur un certain nombre de points. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui est le soin des personnes, l'enseignement, l'assistance aux plus pauvres, en grande partie, c'est pris par l'État. Mais pendant des siècles et des siècles, ça a été l'Église qui a pris soin de l'humanité, là où elle était. Et c'est très important d'en rendre témoignage et de le redire. Et c'est heureux que l'État... Mais vous voyez, encore une fois, c'est pas pareil quand... un hôpital est tenu par des religieuses ou un hôpital est juste composé de salariés, etc., sans une dimension spirituelle, c'est pas pareil. Parce qu'il n'y a pas cette espérance, il n'y a pas cette transcendance de la personne humaine qui va faire que, en termes de soins techniquement, oui, c'est pareil, voire mieux, etc. Les hôpitaux publics sont très dotés de tout un plateau technique extraordinaire. Mais... Il y a autre chose que la technique. Il y a le contact, le soin des malades, la manière de s'approcher de l'autre, l'humilité aussi, dans la manière d'apporter des soins, etc. C'est la capacité, de fait que je rejoins le Christ dans le frère, parce que le Christ a pris notre humanité, il n'y a que les chrétiens qui peuvent redire ça, quoi. Je pense que c'est bien de, aujourd'hui de redire justement des choses qui sont fondamentales et de redire cette dimension-là et de l'affirmer en tout cas dans nos environnements, dans notre manière de redire sur les. Parce que justement, il y a la confrontation avec d'autres religions, parce qu'il y a une laïcité à la française qui ne rend pas service. Voilà, et ça, voilà, ça c'est quelque chose d'important en tout cas. Hein? Apollinaire, là, mais là, je sais pas, vous avez des questions là-dessus, sur la manière, c'est comment c'est le. Comment le Fils de Dieu est-il homme? Vous n'étiez jamais peut-être posé la question. Mais ça sert à ça, des sessions familiales, à se poser des questions qu'on ne se serait jamais posées. Bon, pas de questions particulières là-dessus? Oui. À un musulman ou à une personne agnostique. On voit bien avec l'islam, entre autres, mais la personne agnostique est pareille. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Je veux dire, est-ce que tu peux rejoindre Dieu dans ton intériorité? Est-ce que tu peux. Parle-moi de ta vie intérieure. Ce sera plus compliqué pour un musulman, un bouddhiste, etc. Ce sera beaucoup plus compliqué. Parce qu'il n'y a pas cette. C'est même vu comme un blasphème. Comment, quoi, mais. Ben oui, et je comprends. Pour un juif aussi, c'est compliqué. Comment vous allez dire que Dieu lui-même prend notre nature humaine? Vous êtes en plein blasphème, là. Jésus a été crucifié pour blasphémateur. Mais voilà, c'est la grande. Le christianisme vraiment introduit une rupture considérable. Il y a comme un vertige, je veux dire, quand on prend conscience que la personne de Dieu lui-même, le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, prend notre nature humaine et donc tout ce que ça implique, tout ce qui est humain à voir avec Dieu et tout ce qui est avec Dieu, tout ce qui est divin à voir avec l'humain. C'est pour ça que l'Église, très tôt, a été aux frontières. Aux frontières de l'humain. Aux frontières, qu'est-ce que j'entends, les frontières de l'humain? Ce que le pape François appellerait les périphéries, etc. Là où l'humain était le plus menacé. Là où la dignité humaine était la plus menacée. Parce que c'est au nom du Christ qu'elle s'est approchée des personnes dont l'humanité était la plus blessée, la plus pauvre, la plus exclue, etc., etc. Parce qu'au nom du Christ. Ce n'est pas juste une dimension humanitaire. De mon expérience comme aumônier de prison, moi, j'ai vraiment tiré le fait que s'approcher des personnes plus pauvres, si on n'a pas une espérance plus grande que de donner à manger, que de donner des soins, etc., toutes choses bonnes par ailleurs, si on n'a pas une espérance plus grande, on se décourage très vite. Parce que la personne du plus pauvre te renvoie à tes propres limites. Et je voyais, j'avais mis en place toute une pastorale des prisons avec des. Il y avait des gens. Et forcément, les personnes qui sont en prison, par définition, c'est des personnes compliquées, sinon ils ne seraient pas en prison. Du combien de fois je me suis fait insulter? Combien de fois je me suis fait rejeter, etc., etc. Bon. Et sûr, c'est des gens très violents. Certains sont très, très violents. En parole. Je ne m'ai jamais touché physiquement, mais en parole. Mais en parole, on peut faire très mal. Mais s'il n'y a pas une raison plus grande que le simple fait de porter assistance, beaucoup se découragent. Et comme chrétien, on a une espérance plus grande que ce qui est humainement. C'est ce que dit le pape Benoît XVI dans sa très belle encyclique sur l'espérance. Si on n'a pas une espérance plus grande que le mal, plus grande que ce qui est humainement accessible, eh bien du coup finalement on baisse les bras. Et c'est vrai pour le contact avec les personnes plus pauvres, mais c'est vrai aussi pour la vie de couple, c'est vrai pour la vie du travail, c'est vrai pour... La foi est intimement liée, évidemment, à l'espérance. Et l'espérance nous vient du Christ. C'est pas juste de nos petits points, du fait qu'on soit des bonnes personnes, ou des bonnes personnes à un certain moment, à d'autres moments, non. Oui, l'espérance dans l'au-delà est d'espérance qu'il y a une force d'amour plus grande que nos propres limites. Dans l'au-delà, oui, mais pas seulement. Parce que l'Église a agi ici et maintenant. Mais au nom d'une espérance qui fait que je vais traverser l'épaisseur de cette humanité, comme disait Père Raphaël, on va creuser, on va mettre les mains dans la boue pour trouver le... Mais parce qu'on sait qu'il y a le trésor caché. Sinon, on ne mettrait pas les mains dans la boue. On n'est pas des masos. S'il n'y a pas de trésor caché. L'espérance que l'homme passe l'homme, quelque part. Hein, y a quelque chose de plus grand. Mais c'est quelque chose de plus grand qui vient du Christ. Qui vient du fait que je rejoins à travers cette humanité blessée, je découvre quelque chose du mystère de Dieu. Alors, d'autres questions là-dessus, parce que c'est...
J'ai trouvé très beau la question du fait que plus on humanise les personnes, plus elles se rapprochent de Dieu, parce que ça fait appel aussi à leur liberté.
Oui. Oui.
Sous la houlette de...
Ah oui, il y a d'autres pays où c'est moins... Oui, oui.
Voilà. Et je trouve que c'est aussi une spécificité
du chrétien. Maintenant, on a pu connaître des périodes aussi un peu compliquées où il n'y avait pas trop le choix d'être chrétien ou pas être chrétien. Mais je trouve que c'est vrai que quand on va dans des pays d'autres cultures, il y a des personnes qui, du coup, ils découvrent. Ah oui, c'est... Je pense à des expatriés, etc. C'était en Argentine, c'est pas une autre culture, complètement une autre culture, parce qu'avec 90% de catholiques, ils n'étaient pas complètement... Mais ils sont déjà désinhibés, les expatriés qui sont là-bas, ils ouvrent les cœurs, etc. Et a fortiori, quand la culture est différente, que ce soit dans les pays du Moyen-Orient, que ce soit les pays asiatiques, les pays africains, etc., ils découvrent qu'au fond, tout ce qu'ils ont reçu de leur culture, ça vient de quelque part. Ça vient pas de nulle part. Mais aussi le risque, en perdant, l'inverse est vrai, en perdant le côté spirituel des choses, on diminue en humanité. Et c'est le cas de nos sociétés occidentales. On est dans la consommation, on a perdu de vue cette dimension transcendante, mais du coup, le respect de la vie, au début comme à la fin de la vie, etc., bon, il y a beaucoup de choses qui disparaissent, qui tenaient par une dimension plus transcendante. Donc aussi, questionnons-nous, on peut voir les autres, mais nous, dans nos sociétés occidentales, nous nous sommes éloignés de la foi catholique, et de la foi en France, la foi catholique, la foi chrétienne, et c'est, j'allais dire, général, cette sécularisation qui peut, tôt ou tard, se tournera en déshumanisation. On voit bien la manière de traiter les personnes âgées dans les maisons de retraite, etc., etc. Il y a une forme de déshumanisation, où c'est de la rentabilité, où c'est, etc., etc. Bon, il y a une déshumanisation. Parce qu'il y a une perte de la dimension de foi. Donc, être humain, ce n'est pas spontané. Il nous faut une révélation, il nous faut quelque chose, et quelqu'un singulièrement qui nous rappelle ça.
Cela dit, il y a aussi des philosophies qui proposent de descendre en soi et de trouver l'amour.
Oui.
Donne des rapports humains profondément chrétiens, alors qu'à la base, c'est pas le Christ n'est pas présent dans la tête de cette
Oui. Vous pensez à quoi, par exemple?
Les méditations, il y a des plans de méditation en Inde, par exemple, on pratique des méditations où on descend en soi et qu'est-ce qu'on découvre dans l'amour?
On découvre la présence de
Ce sont,
Dieu.
et ces personnes-là sont totalement rayonnantes.
Mmh.
Et on a même regard pour les saints qui ont vu Dieu
Oui,
en face.
oui, oui. C'est vrai, je pense qu'il y a d'autres manières de. Maintenant, en termes d'espérance face à la pauvreté humaine, je ne sais pas comment il se situe justement. À la d'espérance par rapport à tout ce qui est violence en nous, dimension de ce que nous on appellera péché.
Je pense qu'il y a un travail sur soi, mais pas un travail sur l'autre. Il y a un travail sur soi qui fait rayonner la personne et qui, du coup, va déborder son entourage par une charité qui est exemplaire, hein, qui est égale à celle qu'on voit chez les chrétiens très engagés. Ensuite, il n'y a peut-être pas le souci de l'espérance. Ce n'est pas perçu comme ça, ce n'est pas dit comme ça.
Ou de la compassion, par exemple, ou de. Oui. Oui. Alors, je trouve par rapport le bouddhisme, je ne sais pas si vous faites allusion à ça, etc., mais les traditions orientales, il y a un désir de. Je trouve c'est vraiment. C'est une belle. C'est des belles. Des beaux chemins, mais qui quelque part fait que on travaille sur soi pour éviter de faire. En fait, ce qui nous fait souffrir, ce sont nos désirs. Et donc, du coup, on élimine nos désirs pour que vraiment on puisse être des personnes accueillantes, quelles que soient les réalités qui viennent.
On
Et
les
du coup.
élimine pas, on les contrôle. On
Oui.
cherche à les contrôler.
Et le Christ, il réveille le désir. C'est la Samaritaine. C'est très différent. Le Christ, dans ses rencontres, il réveille le désir humain. Il réveille le désir de Dieu. Alors bon, mais éveillé, le mot Bouddha veut dire éveillé. Donc, mais bon, c'est intéressant de voir. Oui? C'est vrai, ce que vous dites, c'est que. Oui, et je vois parmi les jeunes professionnels, certains, premièrement, passent par un désenchantement après quand même des années d'études assez exigeantes, passent par un désenchantement, beaucoup, du monde professionnel. Et disent, je suis prêt à gagner moins, mais en étant respecté. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est. Cette déshumanisation, et comme vous dites, maintenant la souffrance dans les pays occidentaux, elle est moins une souffrance de pas avoir, d'avoir faim, d'avoir soif, etc., etc. Les fondamentaux, je veux dire, grosso modo, à 90%, bon, bien sûr, il y a des personnes plus pauvres, plus marginales, bon, mais ces personnes ne meurent de faim, grâce à Dieu, en France. Tout le monde a le droit aux soins, la CMU, etc. Bon, mais les souffrances, elles sont beaucoup plus intérieures. Elles sont à voir avec le sens de sa vie. Sont plus spirituels d'une certaine manière. Et quelque part, l'Église a aussi apporté dans cette réalité spirituelle, dans cette réalité de l'entreprise aussi une espérance. C'est tout ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, hein, c'est la pensée sociale de l'Église, comment l'Évangile est appliqué au monde du travail. Oui. Oui. Oui.
Donc, ça va générer notamment le fait que vous allez prendre ici ou là des techniques de méditation, mais pour se centrer
C'est certainement, je pense que ça a été le personnalisme, ça a été la grande. Jean-Paul II est parti beaucoup de ça. L'homme, l'homme, comme il disait avec sa grosse voix. Et certains lui reprochaient, mais au fond, bon, c'est pas où est Dieu, parce que je pense qu'il croyait en Dieu, je pense que ce n'était pas trop la question. Mais est-ce que de mettre beaucoup l'accent sur l'homme, et c'est la différence avec peut-être des religions orientales, qui sont intéressantes par ailleurs, mais la prière chrétienne n'est pas simplement une descente en soi. C'est un décentrement de soi. C'est juste le mouvement inverse. Et de ce décentrement de soi pour aller vers un autre, et non pas d'être auto-centré. Et je pense que c'est... Et c'est vrai que de mettre trop l'accent sur la sans cette dimension transcendante, fait qu'on arrive vers une certaine individualisation, c'est ce qui se passe dans nos sociétés, très centré sur le soi, sur le développement personnel, etc., mais peu sur l'ouverture à l'autre, et la transcendance singulièrement, l'autre qui est tout à fait autre que moi, c'est-à-dire Dieu. Et oui. Bien sûr. Quand on n'a pas quelque chose de plus grand que soi qui nous aide à nous élever, ben on se replie sur soi-même, c'est ce qu'on voit en Europe, chacun essaie de, voilà, il n'y a rien qui transcende un peu comme c'était après la Deuxième Guerre, de construire la paix, voilà, quelque chose, et c'était des grands chrétiens. Et les 12 étoiles du drapeau européen sous fond bleu, non, c'est les étoiles de la Vierge. Et c'est un Alsacien, je crois qu'il y a un Alsacien parmi nous, qui a dessiné ce drapeau européen et qui a été... la devise mais qui n'a, de l'Europe qui n'a pas été retenue, mais qui vous fera sens, vous... L'unité dans la diversité. Ça vous évoque quoi? La Trinité. L'unité de Dieu dans la diversité des personnes. Ça n'a pas été retenu, mais c'était profondément chrétien. Et on voit bien que la diminution de la foi chrétienne dans les pays d'Europe, en tout cas de l'Union européenne, de l'Union, fait que, ben, du coup, chacun est réduit sur soi, on se protège, on se blinde, on verrouille, on est dans la peur, quoi. Parce qu'il n'y a rien de transcendant qui nous unisse. Et c'est pareil pour une famille. Un couple qui reste uni, c'est un couple qui a une cathédrale à construire. Qu'un projet plus grand que lui-même. Sinon, il essaie quoi? C'est à être allé au Club Med, c'est accumulation de biens, c'est quoi qui va faire que le couple va tenir? C'est qu'il est poussé par plus grand que lui-même. Et laquelle dimension, vous l'avez très bien dit, la vie éternelle est capitale. Vous mettez vos enfants au monde pour la vie éternelle, pas que pour cette vie. Alors ça donne le vertige, je dis comme ça, mais en même temps c'est profondément dans une espérance considérable. Ça fait que du coup il y a, mais le fait de cette horizontalité, de ce fait ce côté lisse de nos sociétés fait que au fond chacun se replie sur soi parce qu'il n'y a rien qui fédère et qui emmène plus loin, quoi. Ou alors voilà, ou alors c'est... Et donc du coup on est très méfiant par rapport aux politiques, par rapport... Parce qu'on dit mais est-ce que c'est pas lui-même qui est en train de défendre? Est-ce qu'il y en a un qui est capable de se donner sans regarder à la dépense et même si ça lui coûte son poche, même si ça lui coûte... voilà. Je vois parmi les jeunes professionnels, ils choisissent plus le manager... que le salaire. Ils sont touchés par des personnes, et beaucoup d'entre vous sont en responsabilité, si ce n'est tous, ils sont touchés par des personnes parce que c'est des personnes qui les font grandir. Mais même s'ils touchent 1 000 euros de moins. Et donc, il y a dans l'entreprise, je ne pensais pas pouvoir parler de l'entreprise là, mais la réalité de l'entreprise est une réalité humaine, donc elle n'échappe pas au Christ, forcément, et à la réalité divine. Et donc, dans l'entreprise, il y a beaucoup de bien à faire dans vos postes à responsabilité, pour la grande partie d'entre vous, de dire, ben, est-ce que je fais grandir l'autre? Est-ce que j'ai le souci de le faire grandir? Qu'il y ait une réalité économique, ça me paraît... voilà, on ne peut pas respirer sans oxygène, on ne peut pas vivre une entreprise sans bénéfice, ce n'est pas la question. Mais que le seul point de vue soit la réalité. C'est un des points de vue, mais ce n'est pas le seul. C'est indispensable, mais ce n'est pas le seul. Et on voit bien combien des managers qui ont le souci, qui, au fond, qui aiment les personnes qui lui sont confiées et qui les aiment. Moi, je me rappelle un homme là qui me faisait un très beau témoignage justement au groupe des jeunes professionnels. Et moi, je me suis dit, tiens, et si j'aimais simplement les personnes qui m'étaient confiées? Si je les aimais? Je peux être exigeant, je peux éventuellement licencier, mais à manière de licencier. C'est pas qu'on perde en exigence, c'est pas la question, c'est la question de l'humanité, des rapports humains à l'intérieur de l'entreprise, évidemment, parce qu'il faut bien un Dieu, et donc du coup, si c'est pas le Dieu de Jésus-Christ, ça sert à quel Dieu? Ben, c'est souvent l'argent, quoi. Entre Dieu et l'argent, il faut choisir. Donc vous voyez toute cette dimension de l'unité de la divinité de l'humanité en Christ a des conséquences considérables. Mais c'est ardu comme thème parce que ça, mais les conséquences au quotidien, là pour le coup, sont considérables. D'autres questions, d'autres apports, etc. Oui. Oui. On a introduit une discontinuité, hein, alors qu'il y a une continuité. Alors, c'est pas la notion de personne. C'est-à-dire que c'est pas une discontinuité, c'est plutôt une découverte. C'est-à-dire que l'humanité a progressé, de même avec la révélation faite à Abraham, etc., du Dieu unique. Elle a progressé, elle s'est rendue compte du mystère progressivement de ce qu'il habitait. Mais à un moment donné, il a fallu une révélation pour redire à l'homme ce qu'il était. Parce qu'il avait perdu de vue. Qu'il y a personne humaine. Ah oui, bon. Ça c'est encore autre chose. Je suis pas. Ah, d'accord, la question de l'évolution, etc. Bon, à partir du moment où il y a une capacité de choix, de liberté, et donc alors, je ne suis pas anthropologue, mais là pour le coup, les anthropologues, à partir du moment où il y a une intelligence et une volonté, il n'y a personne humaine. Ah, il y a quand même, il y a un avant et un après. Bon, je ne suis pas spécialiste là pour le coup, je botte en touche. Il y a un avant et un après, la question de la fabrication des outils, la question de le fait d'enterrer les morts, le fait, etc., qui est spécifiquement humain par rapport au règne animal.
Justement, maintenant, on dit qu'il n'y a rien de spécifiquement
humain. Ah, bah si, quand même. Mon chien, il me regarde, il lui manque, mais mon père, il lui manque plus que la parole. Vous l'avez pas vu, il lui manque plus que la parole comme il me regarde. Lui, bah oui, oui, ben bah, oui, ben. Bah. On n'a jamais vu un chien jeûner le vendredi saint. Donc du coup. Non, mais c'est vrai, mais vous faites bien de dire ça. C'est qu'aujourd'hui, on se pose même est-ce que c'est spécifiquement humain? On est presque plus touché par la cause animale que par la cause humaine. Non, nous croyons qu'il y a une différence de nature, pas simplement de degré. Il y a une nature humaine qui est... Alors, il y a un aspect animal en nous, mais ce n'est pas simplement... c'est une nature humaine, le fait de... C'est pas que... différence de nature, non pas de degré... Bah, prenez un exemple, dans notre cadre, entre l'amitié et l'amour. On dit, et à juste titre, qu'il n'y a pas de différence de nature, il y a juste une différence de degré. Ce que je vis dans les amitiés, je le vis de façon suréminente et exclusive dans l'amour, et l'amour matrimonial. Là, on est d'accord. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait plus ou moins d'intelligence, ou plus ou moins de volonté. Il y a ou il n'y a pas. Et il y a une sensibilité, ça oui, dans le règne animal. Mais Mais je pense que c'est intéressant cette question de ce qui est spécifiquement humain, parce que du coup, on en vient à questionner même l'humain. Hein, évidemment, dans tout ce qui est les débuts de la vie, tout ce qui est la défense de la vie, on en vient à questionner l'humain. Hein, donc, bon, bref, c'est des bonnes questions, mais alors. Cette âme humaine, le 472, on va prendre un peu les. Cette âme humaine que le Fils de Dieu a assumée est douée d'une vraie connaissance humaine, en tant que celle-ci ne pouvait pas être de soi illimitée. Elle était exercée dans les conditions historiques de son existence dans l'espace et le temps. C'est pourquoi le Fils de Dieu a pu vouloir, en se faisant homme, croître en sagesse, en taille et en grâce. Et de même avoir à s'enquérir sur ce que, dans la condition humaine, on doit apprendre de manière expérimentale, cela correspondait à la réalité de son abaissement volontaire dans la condition d'esclave, c'est-à-dire l'humilité. Donc c'est de voir que le principe de l'humilité, c'est vraiment la suite du Christ, qui vraiment s'est abaissé, c'est ce que l'on chante le vendredi, le samedi soir aux Vêpres, s'est abaissé, a pris notre condition humaine, et a voulu suivre, a accepté lui qui était infini, vous trouverez ça dans les Pères de l'Église, lui qui était infini a accepté de se faire fini, lui qui était intemporel a accepté de se faire temps, etc. Bon, c'est toute cette dimension-là qui fait que, mais il a accepté de progresser comme une personne humaine. Ce qui fait que nos progrès, nos cheminements, nos apprentissages, tout ça aussi, le Seigneur l'a vécu. Hein, et donc le fondement de l'humilité, c'est vraiment ça, c'est ce désir de pouvoir ressembler au Christ qui s'est abaissé, qui a pris, étant Dieu, a pris notre condition humaine pour nous rendre participants de sa divinité. Voilà, donc je vous laisse un peu il a aimé avec un corps d'homme, vous verrez le cœur du Verbe incarné, le vrai corps du Christ. Bon, tout ça a été des questions qui se sont posées au fil de l'histoire. Est-ce qu'au fond, le Christ est vraiment homme? Est-ce qu'au fond, le Christ est vraiment Dieu? Et donc, bon, je vais arrêter là parce que vous avez votre temps en coupe, mais ce sont des vraies questions qui ont des conséquences, on l'a vu, jusque dans nos vies plus quotidiennes et dans la manière d'envisager une société.